Chers auditeurs et téléspectateurs, bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro du forum du studio Kalangu. Comment renforcer les connaissances sur les droits des migrants et de la traite des personnes est le thème sur lequel nous allons débattre ce soir. Au Niger, du fait de l'importance de la migration de transit et des tragédies causées par ce phénomène et l'afflux massif des réfugiés venant de la sous-région fuyant l'insécurité dans leur pays, s'ajoutent des victimes de traite et de trafic illicite des migrants. Le Niger a souscrit aux engagements internationaux relatifs à la lutte contre la traite des personnes à travers la ratification le 30 septembre 2004. Alors, comment définir la migration et la traite des personnes au Niger? Quel est le contexte national au Niger? Quels sont les facteurs de risque pour les migrants de tomber dans un réseau de traite? Quels sont les droits humains internationaux et les droits des migrants? À ces questions et à bien d'autres, nos invités vont tenter de répondre. Il s'agit de M. Arimi Abakiari de Alternative Espace Citoyen, de M. Ousmane Mamman de l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes, de M. Maïdougou El Hadj Mustapha de la Croix-Rouge nigérienne et de Mme Moha Binta Maïga, directrice des migrations. Je suis Rafika Taher à la présentation. Selon le rapport de l'Organisation internationale pour les migrations intitulé « État de la migration dans le monde » paru en début décembre 2021, le nombre de migrants internationaux est passé de 84 millions dans le monde en 1970 à 281 millions en 2020. Entre 2017 et 2021, 666 victimes de traite ont été assistées dans les centres de transit de l'OIM au Niger. On va commencer par vous, M. Ousmane Mamman. Dites-nous d'abord, quel est le rôle de votre agence?
Merci de m'avoir donné l'occasion de parler de l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes. L'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes, c'est une structure du ministère de la Justice, donc qui est chargée en tout cas de faire la formation, la sensibilisation sur les questions de traite des personnes et de trafic illicite des migrants. À ce titre, nous organisons des formations à l'endroit de tous les acteurs intervenant dans le domaine. Nous faisons des journées de sensibilisation sur ces thématiques et nous avons aussi des bureaux régionaux au niveau des tribunaux des grandes instances qui interviennent dans ce domaine.
Comment peut-on définir la migration et la traite des personnes?
La migration, c'est un phénomène naturel. Il n'y a rien d'infraction. C'est quelque chose de normal. Donc, c'est juste l'instinct de l'être humain de changer de coin, donc de changer de lieu, d'aller vers d'autres horizons. Alors que le trafic illicite des migrants, c'est plutôt tel que défini en tout cas par les textes, c'est le fait d'assurer, afin de tirer un avantage financier ou tout autre avantage matériel, l'entrée illégale d'une personne dans un État qui n'est ni ressortissant ni résident permanent de cet État. Donc ce n'est pas à ce titre le migrant qui est mis en cause, mais c'est cette personne qui assure l'entrée illégale du migrant sur le territoire d'un État alors qu'il n'a pas les papiers pour y entrer. Mmh. Alors que la traite des personnes, c'est aussi une autre infraction, donc prévue par des textes différents, donc qui vise donc à recruter, à héberger, à transporter des personnes en utilisant un certain nombre de moyens qui sont des astuces, par exemple l'exploitation de la vulnérabilité, et, par exemple forcer la personne donc, et l'amener à une exploitation donc, au final. Donc c'est un certain nombre d'éléments qui constituent l'infraction de traite des personnes. D'abord un certain nombre d'actes qui sont posés, notamment le recrutement, le transport et autres. Et puis maintenant des moyens, donc des astuces qui sont utilisées. Et maintenant au finish qui est l'objectif, qui est l'exploitation. Et maintenant cette exploitation prend diverses formes. Souvent c'est l'exploitation dans le domaine de la prostitution. Souvent, c'est l'exploitation dans le domaine du travail forcé. Souvent, c'est le trafic d'organes. Souvent, c'est l'esclavage, tel que vous le savez. Donc, voilà ce que c'est que la traite des personnes.
Madame Moha Binta, quelle est la situation de la migration au Niger?
Comme vous le savez, madame, c'est cette époque dans laquelle nous vivons, c'est une époque plutôt caractérisée par un déplacement massif des personnes, une mobilité et sans précédent des populations. Et donc, le Niger n'est pas épargné par cette situation. Donc, le Niger enregistre de part et d'autre des migrants, des réfugiés et même des déplacés internes. Et c'est dans ce contexte que l'État du Niger a décidé de se doter d'un outil pour la gestion de cette mobilité humaine. Et pour cela, donc, le gouvernement a élaboré une politique nationale de la migration qui a été adoptée en septembre 2020. Et cette politique s'articule autour de trois axes principaux. Nous avons le premier axe intitulé donc l'exploitation des potentialités liées à la migration et qui met l'accent sur la contribution de la migration au développement du pays. Nous avons l'axe numéro 2 qui est intitulé la protection, l'assistance aux migrants, aux réfugiés et aux populations hôtes. Donc ce axe concourt donc à la promotion de la protection des migrants et des réfugiés, à l'assistance aux migrants et à leurs familles et également aux populations d'accueil. Nous avons le troisième axe intitulé la gestion des flux et qui concourt donc à la production des données fiables et aussi à la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants.
D'accord. Oui. Comment le contexte de la migration au Niger expose à la traite des personnes?
Les gens migrent parfois sans document de voyage. Et le fait de migrer sans document de voyage vous expose à tous les risques du monde. Et dans une étude, il y a eu la corrélation il a été démontré qu'il y a une corrélation entre la migration et la traite des personnes. Surtout la migration irrégulière. Ça veut dire que les gens qui voyagent sans document de voyage, ils sont exposés à une quelconque traite ou bien une quelconque trafic de migrants.
D'accord. Oui. Merci, madame. La loi 2015-036 contre le trafic illicite des migrants, mise en application en 2016, vise à mettre fin à la circulation des populations vers le Maghreb. Monsieur Harimi, quel impact peut avoir cette loi? Parce qu'en effet, elle a entraîné les migrants à choisir des routes migratoires vers des zones de plus en plus dangereuses.
Merci, madame. En fait, c'est une loi, je dirais, tristement célèbre. Parce que c'est une loi qui, du jour au lendemain, est venue défaire des pratiques peut-être qui ne sont pas salutaires, mais vraiment qui est venue comme un couperet cogné à la porte, surtout, je dirais, de la population d'Agadez. En ce sens que cette loi interdit toute contribution au trafic ou même au transport des migrants. Au moment où ça a été appliqué, ça a surpris la population d'Agadez qui tire des revenus essentiels, je dirais, de la pratique, en tout cas du passage, lié au passage des migrants dans cette région. Et ça a amené une réaction parce que vous vous rappelez, il y a quelques années, les ressortissants d'Agadez, les jeunes et même les élus locaux ont animé une conférence de presse au cours de laquelle ils ont relevé qu'est-ce que cette loi leur fait perdre. Et ils ont parlé d'une soixantaine de milliards parce que le restaurateur n'arrive plus à vendre ses repas puisque les migrants ou sont bloqués et donc n'ont plus les moyens ou ils ne viennent plus par Agadez. Parce que tout ce qu'on doit payer comme taxes, comme hébergement, comme tout ce que les migrants devaient payer au niveau de cette ville d'Agadez et des autres villes de la région n'avait plus cours.
Et sur les migrants qui décident quand même de prendre la route, justement, des routes peu recommandées.
Justement, oui. Parce que cette loi a fait que les transporteurs sont devenus plus discrets et donc ont changé de route. Or, les routes, comme on le sait, les gens les tracent en fonction des possibilités de trouver un village en cours de route, en fonction de trouver un point d'eau sur la route, et ils étaient obligés de changer. Et si vous vous rappelez, au lendemain de l'application de cette loi-là, il y a eu beaucoup de morts sur la route. Des migrants ont été trouvés carrément asséchés à côté de leur véhicule et tout ce qui s'ensuit. Autrement dit, les gens n'ont pas été sensibilisés à ça. C'est ça surtout qui est grave. Parce que quand on veut prendre des mesures de telle ampleur, on doit sensibiliser. Mais aussi, un grand nombre de jeunes de la région d'Agadez vivaient de ça quand même, il faut se le dire. Et c'est du jour au lendemain que cette activité est devenue illégale. C'était légal, n'est-ce pas? Et du coup, ils se sont retrouvés sans rien faire. Et il a été promis à ces jeunes-là que du boulot sera trouvé pour eux, que des activités seront financées pour eux. La suite nous a montré que ce n'est pas le cas. Donc les conséquences sont énormes parce que les migrants de Agadez, c'est un point de passage historique. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de 500 années que les gens passent par Agadez pour rejoindre ou le nord du continent ou du nord du continent passe à Agadez pour venir vers le sud du continent. Du jour au lendemain, quand on prend une décision comme ça, il faut vraiment prendre des mesures d'accompagnement nécessaires. Mais aussi, cette loi...
Parlons justement de conséquences, M. Arimi. Est-ce que cette loi ne pourrait-elle pas avoir comme conséquence l'augmentation des risques pour les migrants d'être victimes de violations des droits de l'homme?
Bien sûr. Oui. Parce que déjà, avant cette loi, un migrant pour aller d'Agadez à la frontière libyenne ou un peu à l'intérieur de la Libye, payait un certain montant qui tourne autour de 100 000 francs CFA, 150 000 francs CFA, n'est-ce pas? Mais avec cette loi, d'aucuns ont eu à dire que les transporteurs, si toutefois ils osent les prendre, ils doivent être en mesure de rembourser leur véhicule qui pourrait être d'un moment à un autre pris par les agents de l'ordre du Niger. Et donc, du coup, c'est devenu plus cher. En prenant de telles lois, nous faisons un clin d'œil, en réalité, aux gens qui ne veulent pas à ce que les migrants parviennent chez eux.
Je reviens vers vous, Monsieur Ousmane. Les femmes et les filles constituent 69% des victimes de traite au Niger, selon une nouvelle étude de l'Organisation internationale pour les migrations. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs de risque pour les migrants de tomber dans un réseau de traite, surtout des femmes et de ces filles?
Ce qu'il faut comprendre, c'est que avec la loi 2015, en fait, il y a eu une restriction donc du flux. Mais c'est que le flux n'a pas diminué. Il y a eu des voies de contournement. Et la migration est devenue plus chère. Et là, maintenant, les migrants qui n'ont pas les moyens de continuer, donc, sont obligés de rester à Agadez. Et au fil du temps, ils deviennent vulnérables parce qu'ils n'ont pas les moyens de continuer. Et ils n'ont pas aussi les moyens de leur survie à Agadez. Donc, ils deviennent vulnérables et deviennent des proies faciles aussi à des réseaux de traite. Donc, des femmes tombent dans des réseaux de prostitution et les hommes aussi sont souvent tentés d'aller clandestinement sur des sites aurifères pour travailler, en tout cas avec des gens qui sont là juste pour les exploiter parce qu'ils ont utilisé des astuces pour les faire sortir d'Agadez. Donc, en leur miroitant qu'une fois sur les sites aurifères, c'est plus facile pour eux de continuer leur périple. Donc, tout ça rend les migrants vulnérables. Et aussi, le fait de contourner, de prendre des voies de contournement, les laisse aussi entre les mains des réseaux de trafiquants qui souvent s'échangent même des migrants. Donc, c'est la loi du plus fort dans le désert. Souvent, on peut être intercepté, braqué et se faire encore subtiliser les migrants que vous transportez. Donc, c'est devenu un réseau où vraiment les migrants sont devenus comme, en tout cas, un objet, comme une pièce d'or donc, qui peut être passée des mains d'un trafiquant à un autre. Pour ceux qui veulent, en tout cas, ceux qui sont candidats au retour volontaire, eux, quand même, ils sont appelés à contacter le service de l'OIM, qui souvent les prend en charge, qui les accueille dans leur, centre de transit et qui assure, en tout cas, les différentes formalités avant de les ramener chez eux. Mais ceux qui ne veulent pas aller, il n'y a aucune autre alternative que de les laisser là. Et maintenant, s'ils veulent faire les formalités pour peut-être régulariser leur situation et avoir une situation de réfugié au niveau du ministère de l'Intérieur, donc faire les formalités.
On continue avec vous. Quel idéal commun les droits internationaux visent à atteindre par tous les peuples et toutes les nations pour les êtres humains?
L'idéal des droits humains, c'est d'abord c'est vivre dans un monde de paix, un monde de sécurité, un monde sans violence, sans discrimination, où tous les êtres humains vivent égaux, donc sans discrimination, sans être exploités, où tous les êtres humains ont droit à l'eau, à la nourriture, à l'éducation, à la santé, et tous les droits, en tout cas, inhérents à la personne humaine soient garantis. C'est ça l'objectif, en tout cas.
Monsieur Mustapha, vous voulez réagir sur cette question ?
Il faudrait en tout cas que peut-être à travers nos actions surtout, et surtout encore quand on parle un peu de la Croix-Rouge, ce que nous faisons à travers un peu nos, comment on appelle là, nos sept principes ainsi d'action, nos sept principes fondamentaux, je dirais, c'est surtout en tout cas promouvoir un peu la, comment on appelle là, la dignité humaine, les droits humains. Mm-hmm. Donc je pense bien que c'est un peu ça, leader surtout, comment on appelle là, pour le droit humain.
D'accord. Madame Binta, quels sont les droits des migrants ?
Les migrants ont tous les droits que les nationaux possèdent. Le migrant n'est pas différent du citoyen ordinaire. Il possède tous les droits. Au Niger, avec le protocole de la CEDEAO, les migrants des pays de la CEDEAO ont tous les droits comme les nationaux, même le droit d'établissement. Ça veut dire qu'ils peuvent créer leur entreprise. Il suffit de répondre à une certaine exigence de l'ANPE. Donc, je pense qu'ils ont tous les droits.
D'accord. Oui. Pour gérer de façon efficace la question de la migration, des dispositifs institutionnels et juridiques ont été mis en place au plan international, régional et national. Monsieur Ousmane, qu'est-ce que c'est que le cadre légal de la migration ? Quels sont les instruments légaux de protection des droits des migrants ?
D'abord, le Niger, comme beaucoup de pays, donc a souscrit à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, qui est la Convention mère, ce qu'on appelle la Convention de Palerme. Donc, et ces protocoles, notamment le protocole sur la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et le protocole additionnel sur le trafic issu des migrants par air, terre et mer, et beaucoup d'autres conventions, en tout cas sur les questions de migration de façon générale. Donc le pacte mondial sur les migrations surordonnées et autres. Donc, et là, le Niger a internalisé ces différents textes et il a mis en place un cadre juridique institutionnel. Du point de vue cadre juridique, en matière de traite des personnes, il a été adopté l'ordonnance 2010-86 du 16 décembre relative à la lutte contre la traite des personnes. Et ce texte a créé trois institutions. L'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes, qui est l'organe opérationnel, donc qui est chargé de faire les sensibilisations et les formations. Et la Commission nationale de coordination de la lutte, qui est l'organe de conception, donc qui est chargé d'élaborer les plans et stratégies en matière de traite des personnes. Et un fonds d'indemnisation des victimes de traite, donc qui est là, mais qui n'est pas encore opérationnel. Maintenant, de l'autre côté, en matière de trafic illicite des migrants, le Niger a internalisé en 2015, donc en prenant la fameuse loi 2015 sur le trafic illicite des migrants. Et là également, ce sont les mêmes institutions qui sont chargées de connaître des questions de trafic illicite des migrants au même titre que les questions de traite des personnes. Maintenant, du point de vue institutionnel, il y a eu encore dans d'autres services, par exemple au niveau de la police, il y a eu une division des investigations spéciales, donc au niveau de la DST qui a été créée, qui est chargé de connaître spécialement les questions de traite des personnes, trafic illicite des migrants et la fraude documentaire. Il y a eu également au niveau de la gendarmerie et de la police encore, en tout cas des divisions chargées des infractions contre les mineurs, surtout en matière de traite des personnes, traite des personnes surtout, et d'autres infractions concernant les mineurs. Et au niveau aussi des juridictions, il y a eu le pôle, en tout cas spécialisé en matière de terrorisme et la criminalité transnationale organisée, qui s'occupe aussi des questions de traite des personnes et de trafic illicite des migrants. Donc voilà un peu les différents dispositifs qui a été mis en place et qui est chargé d'animer en tout cas les questions de traite des personnes, trafic illicite des migrants. Maintenant, il y a eu la politique de la migration aussi, qui a été adoptée en 2020 par le Niger, qui aussi est un document très important, en tout cas qui est en train d'être mis en œuvre.
Quelles sont les sanctions liées à la traite des personnes ?
La traite des personnes, comme toutes les infractions, en tout cas liées à la criminalité transnationale organisée, donc, est réprimée au Niger, donc de 5 ans à 10 ans de prison, et en fonction aussi des circonstances aggravantes, des conditions dans lesquelles l'infraction a été commise, donc les peines peuvent aller au-delà. Donc jusqu'à 30 ans.
Madame Binta, quels sont les droits fondamentaux des migrants ?
Oui, il a le droit d'être assisté en cas de danger. Et il a le droit d'être protégé. Et également, le droit de circuler librement. Mais avec des documents de voyage. Donc, même s'il a les droits, il a aussi, le migrant a également des devoirs.
Oui. Et vous, à la Croix-Rouge nigérienne, parmi ces droits fondamentaux, lesquels vous prenez en charge?
Tout ce que nous offrons comme service vise quand même à protéger et surtout, tel qu'on dit, à comment on appelle là, à faire en sorte à ce que, en tout cas, les personnes concernées, qui qu'ils soient en tout cas, à part même, avant même de parler un peu de comment on appelle là, des victimes de traite ou bien des migrants, toute personne en tout cas, dans une situation un peu de vulnérabilité normalement, doit être assistée. Et c'est un droit d'immense et nous, normalement, en tant que Croix-Rouge, c'est un devoir pour nous de les assister. Et l'assistance que nous pouvons apporter, et ça dépend toutefois, en tout cas, de comment on appelle là, de la vulnérabilité, mais également, ça dépend surtout des moyens que nous disposons. Si vraiment nous ne sommes pas disposés, nous ne sommes pas à mesure de répondre, là, on est limité, on ne peut rien faire. Pour le cas de migrants, c'est surtout concerné par la situation des traites. Et puisque surtout, ce qu'il faudra, c'est dire, quel que soit en tout cas le cas des traites, ce n'est pas sans conséquence et sur plusieurs plans. Donc, nous disposons un peu des services de santé, nous disposons en tout cas, comment on appelle, nous offrons le, comment on appelle, la quitte de dignité. Et là, c'est un peu pour, comment on appelle, pour parler un peu dans le cadre de la santé. Il peut y avoir des blessés. Par exemple, généralement, traite par exemple, il peut y avoir par exemple des exploitations, comme on appelle les travaux forcés, ou bien exploitation domestique, exploitation sexuelle. Donc imagine, nous sommes censés quand même, comme on appelle, à recevoir ces genres de cas, et nous les recevons presque à tout moment, et nous leur offrons en tout cas les services que nous disposons. Pour ce qui est de santé, surtout si c'est des cas un peu de comment on appelle, de l'exploitation sexuelle, immédiatement la première des choses à faire, c'est de voir, puisque quand on dit exploitation sexuelle, ça sous-entend également peut-être comment on appelle les cas de viol et autres là. Donc la première des choses au moins c'est de faire en sorte en ce que les IST, donc les maladies ou bien les infections sexuellement transmissibles ou bien les maladies sexuellement transmissibles soient prévenues. Là maintenant à travers quelques produits, notamment également la prévention un peu des grossesses non désirées surtout, c'est des produits qui permettent peut-être en tout cas de prévenir certaines choses. Certes oui, pour certains, tels que par exemple grossesse non désirée, même les IST, on ne sait pas, puisqu'il y a une durée. J'ai parlé un peu des services de santé. Là, il y a plusieurs manières de l'offrir. On a comment on appelle la SWAT, ça peut être au niveau de notre centre. On a des centres où nous offrons ces services-là, mais également à travers des cliniques mobiles où nous partons vers ces migrants pour les rencontrer. Donc ce n'est pas, il n'y a pas que la santé. Quand on parle surtout, quel que soit en tout cas le cas de traite, ce n'est pas sans conséquence sur le plan mental. C'est quelque chose vraiment qui a excessivement, qui touche énormément surtout, comme on appelle le bien-être psychosocial, le bien-être mental de la personne. Donc souvent, pour même les identifier, même quand ils ne viennent pas en tout cas vers nous, pour les identifier, souvent tu vois que c'est des personnes en tout cas qui sont un peu désorientées, souvent ne sachant presque quoi faire, ainsi de suite. Donc nous rentrons en contact avec ces personnes. Et la première des choses, surtout les premiers services que nous pouvons offrir un peu, c'est de les amener, on dit les premiers secours psychologiques, c'est de les amener un peu à se calmer, à retrouver un peu comme on appelle là. En tout cas, à se calmer, peut-être à devenir un peu lucide pour qu'ils soient en mesure au moins de recevoir, comment on appelle là, de comprendre ce que nous allons leur dire, ce que, de façon, la façon dont nous pouvons les aider et comment on appelle là, à également identifier des besoins ainsi de suite. À travers les soutiens psychosociaux, c'est un service qui est continuel. Normalement, pour la première fois, normalement, si nous identifions des besoins un peu urgents, la première des choses, c'est de satisfaire ce que nous pouvons satisfaire et faire le référencement vers d'autres services, tels que les hôpitaux. N'est-ce pas, voir dans quelle mesure, par exemple, nous pouvons faire les examens poussés ainsi de suite.
Madame Binta, est-ce qu'il y a des obstacles juridiques et pratiques qui peuvent empêcher les migrants d'exercer effectivement leurs droits?
En tout cas, pas au Niger. Moi, je ne pense pas qu'il y ait des obstacles pour les migrants qui sont au Niger d'exercer un quelconque droit.
D'accord. Quels sont les
défis? Il y a assez d'instruments quand même qui leur octroient des droits et des devoirs aussi. Il ne faut pas parler seulement des droits, mais il y a aussi des devoirs. Il y a des choses à respecter.
Quels sont les défis liés aux migrants en matière de leurs droits, M. Ousmane?
Avant de répondre à la question, j'aimerais un peu revenir sur la loi 2015. En fait, la loi 2015, c'est vrai aujourd'hui, quand on prend la société civile et certains acteurs aussi d'Agadez, reprochent beaucoup de choses à la loi 2015. Mais l'objectif de cette loi, c'est bien écrit, c'est d'abord, c'est d'abord lutter contre le trafic illicite des migrants, protéger les droits des migrants et promouvoir la coopération. Mais il est vrai que c'est une loi qui est tombée, en tout cas sans sensibilisation préalable. La population n'était pas sensibilisée lorsque la loi est arrivée. Mais le Niger a souscrit à ce protocole depuis 2009. Et il a fallu 2015 pour que le Niger prenne une loi pour se conformer aux engagements qu'il a pris. Seulement, il n'y a pas eu un travail, en tout cas, en amont qui a été fait. Donc, d'accord. Et là, le problème qui se pose, c'est quoi? C'était une activité qui était licite à Agadez, le fait de transporter les migrants. Et du coup, la loi est venue interdire cette activité. Et pourquoi? L'objectif, c'est quoi? C'est parce qu'il a été constaté qu'il y a des personnes malveillantes qui sont là autour des routes migratoires, qui veulent tout simplement exploiter ces personnes, qui veulent tout simplement voyager, qui veulent tout simplement changer de coin, qui veulent aller, en tout cas, vers d'autres horizons. Donc, autour de leur périple, il y a des personnes malveillantes qui veulent les exploiter, qui veulent assurer leur entrée illégale dans des pays pour se faire de l'argent.
Est-ce qu'on peut dire que leur droit est respecté?
Les droits des migrants, pendant qu'ils sont en transit ou bien en séjour sur le territoire du Niger, leurs droits sont respectés parce que, au moins, il y a un dispositif juridique qui garantit tous ces droits-là. Par exemple, le migrant qui est en transit au Niger ou bien qui est de passage au Niger, il a le droit de travailler comme un Nigérien. Il a le droit d'inscrire ses enfants à l'école comme un Nigérien. Il a tous les droits qu'un Nigérien peut bénéficier. Donc, il a le droit de travailler, il a le droit d'inscrire, il a le droit d'exercer une activité commerciale. Donc, tous les droits rattachés, parce que notre Constitution déjà l'a prévu, dit que donc les étrangers bénéficient des mêmes droits que les Nigériens. Donc, il a d'abord ses droits qui sont liés à son statut d'être humain. Maintenant, il y a des droits spécifiques qui sont liés à son statut de migrant. Donc, ils lui sont accordés.
D'accord. Pendant des décennies, le Niger a été un pays d'origine, de transit et de destination sur la route migratoire transsaharienne. Comment est-ce qu'on peut identifier une victime de traite et que faire si je détecte un réseau de traite?
En fait, d'abord, comme vous l'avez vous-même dit, le Niger, c'est un pays de transit par excellence aujourd'hui. Donc, c'est le pays, parce que nous avons une position très stratégique vis-à-vis du Maghreb. Donc aujourd'hui, nous sommes le seul pays, en tout cas de l'Afrique de l'Ouest, qui a une frontière avec la Libye, de l'Afrique de l'Ouest. Et nous accueillons en tout cas des ressortissants de l'Afrique de l'Ouest qui passent par le Niger pour aller vers le Maghreb et au-delà, vers l'Europe. Maintenant, il y a dans ce flux migratoire des cas de traite, donc des personnes...
Comment
sont
détecter
là?
Ces personnes-là?
Ok. D'abord, il y a ce qu'on appelle la détection préalable. Ça, c'est à travers des indicateurs. Il y a un certain nombre d'indicateurs, donc des comportements des personnes qui vous laissent croire que cette personne est peut-être exploitée, qu'elle n'est pas à l'aise, en tout cas dans son périple. Donc, à travers des comportements, par exemple, si vous voyez des enfants qui ont des numéros de téléphone, qui voyagent seuls sans un adulte, par exemple, ça peut vous amener à vous demander mais pourquoi ces enfants voyagent seuls avec des numéros de téléphone. Peut-être que ce sont des trafiquants qui ont donné des numéros une fois dans un pays ou bien dans une ville, ils vont appeler ces numéros-là. Ou bien, par exemple, quand vous voyez un enfant qui voyage avec un adulte, il ne connaît pas les noms de ces adultes-là.
C'est sûr que c'est...
Ce sont des éléments, des indicateurs qui vont vous amener à vous interroger, vous, en tant que citoyen.
D'accord.
Donc, déjà, sensibiliser sur les questions de traite, ça peut vous alerter. Donc, ça peut vous amener à vous demander, est-ce que cet enfant-là n'est pas un enfant qui est victime de traite? Donc, ce sont juste des indicateurs qui vous permettent d'abord de détecter une victime de traite. Et maintenant, vous dénoncez auprès... de qui de droit.
Oui, mais comment, maintenant, moi, après, qui suis témoin de ces genres de situations, comment est-ce que je peux dénoncer?
vous partez vers, par exemple, la société civile, mm-hmm. peut recevoir une victime de traite. Vous pouvez, par exemple, les victimes de traite peuvent directement venir au niveau de la société civile pour dénoncer. Mm-hmm. Tout comme les victimes de traite ou bien des personnes qui ont connaissance des activités de traite peuvent aller au niveau de l'agence pour dénoncer. Voilà. Ils peuvent aller au niveau des OPJ pour dénoncer. Maintenant, à partir de cette dénonciation-là, on passe de l'étape donc, de la détection préalable à ce qu'on appelle la détection, en fait, l'identification formelle. Mm-hmm. Là, donc, c'est devant les OPJ qui vont faire un PV, qui vont relater des faits, qui vont déférer au parquet, et le parquet va donner le statut de victime de traite. Voilà. Mm-hmm. Donc, en ce moment, elle devient une victime de traite.
D'accord. Madame Binta, est-ce qu'il y a des mécanismes mis en place pour prévenir et protéger les droits des victimes du délit de traite?
Oui, notre cadre de référence, c'est la politique nationale des migrations. Mm-hmm. Nous avons prévu plusieurs actions dans le cadre de la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants. Mm-hmm. Donc, nous avons prévu des actions de formation de la police et pour qu'ils puissent détecter les cas de traite. Et dans l'axe numéro 2 également, nous avons des actions qui visent à protéger ces victimes et aussi à les assister en cas de traite.
D'accord. Oui. Et quelles sont les mesures prises au Niger pour lutter contre l'exploitation des travailleurs migrants en situation irrégulière et l'esclavage domestique, par exemple?
Oui, je vous rappelle que le Niger a ratifié donc la convention sur les travailleurs migrants et leurs familles. Donc, je pense qu'avec l'application de cette convention, je pense que les travailleurs migrants seront à l'abri de toute exploitation.
D'accord. Oui. Les obligations de l'État envers eux pour une protection efficace?
L'obligation de l'État, c'est l'application de ces conventions.
D'accord. Oui. Vous referez toujours à l'application de la convention.
Oui, de la convention.
Monsieur Arimi, quelles sont maintenant, on arrive aux recommandations, par rapport à la situation des migrants au Niger et la question du respect de leurs droits?
Et sinon, un peu surtout pour comment on appelle là, dans le cadre de l'identification un peu de comment on appelle là, des victimes de traite, même si je ne dirais pas, en tout cas, on a quelques éléments, tels que par exemple l'exemple de l'enfant, des enfants qu'il a donné. Par exemple, un enfant voyageant seul ainsi de suite, c'est des indices. Mais tout de même, nous, un peu ce que nous faisons également des sensibilisations dans la communauté, ou surtout par exemple un peu à Agadez et ainsi de suite, Sira. D'abord, la façon en tout cas dont les traites, c'est comment on appelle ça, c'est fait, puisque ça permet vraiment d'alerter un peu la communauté et surtout encore dire que personne en tout cas n'est épargné, ça pourrait arriver à tout le monde. Mais en plus, les conséquences, les causes, les conséquences en tout cas nous édifions la communauté, c'est la conséquence, c'est qui amène surtout pour la plupart en tout cas, si on est témoin, de dénoncer les plus, comme on appelle, les plus tôt possible. Donc, en tout cas, nous faisons ce genre de, comment on appelle, ce genre de messages également, afin de contribuer surtout à lutter contre, comment on appelle, la traite.
D'accord, monsieur Arimi.
Bon, moi, je pense qu'on doit cesser de mener un combat qui n'est pas le nôtre. Oui, le Niger doit réguler le flux et le passage, l'entrée et la sortie du Niger, n'est-ce pas, doit faire attention à qui rentre dans ce territoire et qui traverse le Niger. Mais on doit faire ça pour nous-mêmes. C'est-à-dire, nous avons par exemple pris des engagements avec nos pays frères de la sous-région, n'est-ce pas? On doit s'en tenir à ça, n'est-ce pas? Parce que souvent on prend des décisions qui sont en contradiction avec nos traditions, qui sont en contradiction avec nos intérêts directs, parce qu'on se demande quel intérêt a le Niger à bloquer le passage à travers son pays ou à rentrer dans l'autre pays. L'autre pays qui ne veut pas recevoir n'a qu'à, une fois que les personnes ont tracé, ont traversé, n'a qu'à les prendre en charge, à s'en occuper pour savoir. Mais là, nous accueillons, d'abord nous accueillons des réfugiés, nous accueillons des exilés, mais aussi on empêche aux autres d'exercer leurs droits aussi simples que aller et revenir. Moi, je pense que le Niger doit s'en tenir au protocole de la CEDEAO, au protocole des Nations Unies, et cette loi qui est venu par la suite pour aggraver les choses, je crois que le Niger doit l'en écarter ou alors simplifier et rendre ça beaucoup plus humaine. Parce que on veut, en réalité, c'est le flux qu'on veut diminuer. La loi, moi, ce que je vois à travers cette loi, c'est le flux qu'on veut diminuer et non qu'on veut mettre des règles qui respecteraient les intérêts de notre pays. On doit mettre en avant les intérêts du Niger, les intérêts des Nigériens et vraiment ne pas s'immixer dans une lutte qui ne nous concerne pas. Il y a des pays à travers le monde qui ont pensé que l'étranger qui vient, c'est pour prendre le boulot de ses ressortissants, c'est pour amener des maladies, c'est pour amener la sécurité. Ils n'ont qu'à gérer leurs affaires et nous, on gère les affaires qui sont les nôtres. Le flux entre le Niger et le Nigeria n'a jamais causé de problème, entre le Burkina et le Niger n'a jamais posé de problème, même si les gens font face à des tracasseries policières, mais le Nord est devenu un problème parce qu'on s'est invité dans une guerre qui ne nous appartient pas.
Merci Monsieur Arimi. Donc on termine avec vous Monsieur Mustapha. Est-ce qu'il y a des référencements ou prises en charge médicales et psychosociales pour les migrants? Les migrants, les personnes victimes de traite?
Oui, en tout cas en ce qui concerne la Croix-Rouge, surtout, je commencerai peut-être par les services d'abord, puisque c'est après, en tout cas, un service que nous pensons même, ou bien, comme on appelle là, que nous référons vers d'autres structures pour la prise en charge. Mais je dirais surtout, il s'agit vraiment de parler de services de santé. Et en ce qui concerne les services de santé qui s'offrent, souvent, comment on appelle ça, si c'est, surtout ça dépend de lieu de rencontre. Si c'est nous qui sommes allés vers, donc là, généralement, c'est la clinique mobile, mais si c'est les concernés, en tout cas, qui se sont déplacés, c'est au niveau de notre centre que nous offrons ces services-là.
Le Niger, à l'instar de nombreux pays étant concerné par le phénomène de la traite des personnes, quelle analyse faites-vous, M. Arimi, par rapport à la loi relative au trafic des migrants adoptée en 2015 au Niger?
Merci. C'est une loi nationale, normalement, comme toutes les lois. Mais pour comprendre et voir ce qui se passe par rapport à cette loi-là, il faut aller surtout à Agadez. Agadez qui est transformée comme qui est devenue une frontière vraiment de notre pays par rapport apparemment aux pays européens. Parce que ce qui préoccupe et ce que cette loi vise, de mon point de vue, ce n'est pas que les gens aillent même au Maghreb, mais que les gens aient un programme, un projet d'atteindre l'Europe. Et malheureusement, vous savez, notre pays a pris des engagements à la Valette quand l'Europe avait promis vraiment de soutenir de telles entreprises. Et automatiquement, presque après, on a pris cette loi-là et on a essayé de l'appliquer. D'ailleurs, souvent, c'est au détriment de la loi que Madame a évoquée tout à l'heure, le protocole de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, qui pourtant autorise de la même manière que nous pouvons nous promener, nous Nigériens, partout au Niger. Normalement, c'est la même chose pour, par exemple, les ressortissants de la CEDEAO qui devaient le faire. Et cette loi du 2015-36 nous a amené vraiment à violer ces engagements antérieurs, n'est-ce pas, que nous avons pris vis-à-vis de nos pays frères de la sous-région, par exemple. Mais aussi, cette loi a fait vraiment des dommages collatéraux, notamment au sein de la population d'Agadez, comme j'étais en train de le dire. Et cette loi, sincèrement, vous avez dit qu'on va venir aux recommandations, mais je pense qu'il est temps de la réviser, sinon vraiment de la remplacer, tout simplement, parce que peut-être qu'on va en venir à ça, mais la question de la traite, la question de passeurs, de crimes organisés, moi je pense que les Nigériens ne sont pas très concernés par par ça là. C'est les gens eux-mêmes qui décident de partir. Et comme on le dit, les gens ne partent pas pour rien. Aujourd'hui, à cause du changement climatique, les gens n'ont plus de terres de cultivables. À cause de la pauvreté ambiante, ils n'ont pas de quoi subvenir à leurs besoins et essaient d'aller ailleurs. Moi, je pense que ce qu'on peut faire, quand on décide d'une telle loi, n'est-ce pas, c'est d'abord de penser à ces personnes qui vivent de ça depuis des années, dont c'est devenu une tradition. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Il faut remplacer nécessairement cette source de revenus, que ce soit légal, que ce soit illégal, ou en tout cas, c'est de ça qu'ils vivent.
D'accord.
Ok, et donc de pouvoir remplacer ces sources de revenus là avant de décider de quoi que ce soit. Mm-hmm. Parce que la preuve, on n'a pas pu bloquer. Alors que quand même, c'est des restrictions graves. Il y a des peines de prison qui peuvent aller jusqu'à 30 ans. N'est-ce pas? Mm-hmm. Et donc, moi, je pense que il faut qu'on puisse faire face aux préoccupations de nos concitoyens qui sont dans des problèmes et qui veulent aller les résoudre.
Merci, M. Harimi. Oui, ces personnes qui sont dans le besoin, qu'est-ce que vous pouvez leur dire s'ils voudront bénéficier de vos services?
De nos services, normalement, oui. On a quand même, comment on appelle là, on n'a pas besoin peut-être de dire grand-chose, on est connu normalement, quelle que soit
pour
la situation.
Pour un migrant qui n'est, parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'il y a des migrants qui ne savent pas que vous donnez bien sûr cette prestation, voilà. Donc, qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les informer?
Oui, ce que nous pouvons leur dire. Bien qu'ici à Niamey, c'est un service qui est un peu limité. À Niamey aussi, nous sommes en mesure normalement de, comment on appelle, en mesure de le recevoir. On a un centre au niveau de Talagé qui reçoit, les migrants et qui travaille actuellement en tout cas avec les migrants qui sont au niveau des Pays-Bas. Ça, c'est à Niamey. À Agadez, pareil, on a des. Normalement, il y a d'autres qui viennent vers nous, mais tout de même, je pense bien que soit peut-être de demander. Où se trouvent les services des Croix-Rouge. Et je pense bien que la Croix-Rouge est un peu connue, un peu dans les zones. On peut facilement, en tout cas, entrer en contact avec, avec au moins le volontaire ou bien les staffs même de la Croix-Rouge. Et un peu à Agadez, on a des lignes, des téléphones ici, de suite. En tout cas, je pense bien que le mieux, c'est de s'y renseigner. Mais sinon, en tout cas, on est disposé à tout moment, on reçoit, ces genres de cas.
D'accord. Oui. Nous retenons de cette discussion que la protection et le respect des droits de tous les individus, y compris des migrants, femmes et hommes, ne sont certainement pas une violation du droit souverain d'un État d'établir les politiques migratoires. L'adoption d'une approche fondée sur les droits est bénéfique non seulement pour les personnes concernées, mais promeut le respect de l'État de droit pour les institutions existantes et est donc bénéfique pour les États et les individus. Fidèles auditeurs et téléspectateurs, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou qui a porté sur comment renforcer les connaissances sur les droits des migrants et de la traite des personnes. Nous disons merci à nos invités. Merci aussi à vous, chers auditeurs et téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je suis Rafika Taher à la modération de ce forum, à la technique Amina Hassan, à la régie vidéo Issa Lawali. Passez une excellente soirée.